Chapitre 22. Consacré surtout à des mariages. On était arrivé à l'époque où le docteur et Madame Blimber donnaient leur grande fête du milieu de l'année. Ils priaient, comme toujours, chaque jeune homme appartenant à cet établissement distingué de vouloir bien leur faire l'honneur de venir passer la soirée chez eux. Cette soirée commençait de bonne heure à 7h30 et l'on dansait des quadrilles. Puis les jeunes gens, conservant toujours une gravité décente, se rendaient dans leur famille, l'esprit repu de connaissance. Le jeune Scattles était parti à l'étranger, où son père, Sir Barnett Scattles, grâce à sa popularité, avait obtenu un poste diplomatique. Le jeune homme était là comme un ornement à demeure de la maison dont M. Scattles et Lady Scattles faisaient les honneurs à la satisfaction de leurs compatriotes des deux sexes, ce qui était considéré comme un prodige d'habileté. M. Tozer, actuellement un jeune homme de haute taille, portant des bottes à la Wellington, était farci d'antiquité, à tel point qu'il aurait pu tenir tête à un vrai Romain des temps jadis pour la connaissance de la langue anglaise. C'était un glorieux résultat qui procurait de bien tendres émotions à ses bons parents. Mais les lauriers du Tozer empêchaient de dormir le père et la mère de M. Briggs. La tête de ce pauvre garçon ressemblait à une malle d'effet mal rangée. Tout y était si dru et si serré que lorsqu'il désirait quelque chose, il ne pouvait jamais mettre la main dessus. Aussi, ses parents avaient l'oreille basse. Les fruits que le jeune Briggs avait si péniblement cueillis sur l'arbre de la science avaient été soumis à un tel pressurage qu'ils n'avaient rien conservé de leur forme ou de leur saveur naturelle. On pouvait les comparer moralement à des poires tapées. Quant au petit Bitherstone, il était en bien meilleur état. Le système de l'établissement avait eu sur lui un heureux résultat qui, du reste, n'était pas rare. Du moment que la machine à science avait cessé de fonctionner, elle n'avait plus laissé chez lui aucune impression. En ce moment, il était à bord d'un navire chargé pour le Bengale, et il était en train d'oublier si rapidement tout ce qu'il avait appris qu'il n'était pas bien sûr de faire durer les déclinaisons des substantifs jusqu'au bout de la traversée. Le docteur Blimber avait l'habitude, le matin du jour où il donnait sa soirée, de dire à ses élèves « Messieurs, nous reprendrons nos études le 25 du mois prochain. » Cette fois, il se départit de l'usage et leur dit « Messieurs, lorsque notre ami Cincinnatus se retira dans ses terres, il ne présenta au Sénat personne pour être son successeur. Eh bien, voici un Romain, et il mit sa main sur l'épaule de M. Fider, bachelier ès-lettres, voici un Romain dont on peut dire « Adolescens imprimis gravis et doctus » que moi, Cincinnatus et Mérite, je désire présenter à mon petit Sénat comme devant être leur futur dictateur. Messieurs, nous reprendrons nos études le 25 du mois prochain sous les auspices de M. Fider, bachelier ès-lettres. À cette nouvelle que le docteur Blimber était déjà allé personnellement et poliment annoncer à tous les parents, les jeunes gens applaudirent. M. Tozer, au nom des élèves de l'établissement, fit immédiatement cadeau au docteur d'un encrier en argent. Il prononça un speech dans lequel la langue maternelle n'avait qu'une fort petite part. Il y avait 15 citations latines et 7 citations grecques. Les plus jeunes étaient furieux et, de dépit, ils poussaient des « oh » et des « ah ». « Que le vieux Tozer fasse ce qu'il veut, disait-il, mais nous n'avons pas donné notre argent pour qu'il aille faire son pédant avec ». Pourquoi donc ce serait-il au vieux Tozer plutôt qu'à un autre de donner cet encrier? Ce n'est pas son encrier à lui, c'est à tout le monde. Il n'a pas le droit de s'en donner les gants. Et leur mécontentement s'exhalait en murmures, au milieu desquels il paraissait prendre plaisir à se venger de lui, en l'appelant vieux Tozer, consolation bien innocente, mais bien sentie. Pas un mot, pas la moindre allusion n'avait été faite devant ces jeunes gens au mariage projeté entre M. Fider, bachelier ès-lettres, et la belle Cornelia Blimber. Le docteur Blimber, surtout, se donnait une peine infinie pour prendre l'air de quelqu'un qu'un événement pareil surprendrait au plus haut point, ce qui n'empêchait pas que la chose fût parfaitement connue de tous les jeunes gens. La preuve, c'est que quand ceux-ci partirent pour aller rejoindre leurs parents et amis, ils prirent congé de M. Fider en le plaignant de tout leur cœur. M. Fider, au contraire, voyait se réaliser ses rêves les plus romanesques. Le docteur s'était décidé à faire badigeonner l'extérieur de la maison et à la remettre à neuf, puis à céder son établissement avec Cornelia, l'un portant l'autre. les peintres se mirent à l'ouvrage le jour même du départ des jeunes gens, et déjà était arrivé le jour du mariage. C'était le matin, on attendait Cornélia pour la conduire à l'hôtel avec une paire de lunettes neuves. Le docteur et ses doctes mollets, Madame Blimbert et M. Fider, bachelier ès-lettres, avec ses mains longues et osseuses et ses cheveux en brosse, et le frère de M. Fider, le révérend Alfred Fider, licencié ès-lettres, qui devait donner la bénédiction nuptiale, étaient tous réunis dans le salon. Cornélia, avec ses fleurs d'oranger et ses demoiselles d'honneur, venait de descendre, et comme autrefois, elle semblait un peu trop serrée, mais toujours charmante. Au même moment, la porte s'ouvre, et le jeune domestique myope annonce à haute voix « Monsieur et Madame Toots !» Aussitôt entre Monsieur Toots, qui est devenu un fort gaillard, et qui donne le bras à une dame dont la mise est riche et distinguée, et dont les yeux noirs brillent du plus vif éclat. « Madame Blimbert, dit Monsieur Toots, permettez-moi de vous présenter ma femme. » Madame Blimbert est enchantée de la voir. Elle garde un peu son quant à elle, mais elle se montre très affable. « Comme vous me connaissez depuis longtemps, vous savez, dit Monsieur Toots, permettez-moi de vous dire que c'est une des femmes les plus remarquables du monde. »« Ah, mon ami, dit Madame Toots, avec une petite moue grondeuse. » « Ma parole d'honneur, dit M. Toots, je vous jure, Madame Blimbert, que c'est une femme comme on n'en voit guère. » Madame Toots rit de tout son cœur, et Madame Blimbert la conduit à Cornélia. M. Toots présente ses hommages à la mariée, et salue son ancien maître, qui lui dit par allusion à son mariage, « Eh bien, Toots, vous voilà donc enrôlé dans notre confrérie, n'est-ce pas, Toots ?» Après quoi M. Toots se retire avec M. Fider, bachelier ès-lettres, dans l'embrasure d'une fenêtre. M. Fider, en veine de gaieté, donne malicieusement un coup du revers de sa main droite sur l'abdomen de M. Toots et lui dit en éclatant de rire « Eh bien, mon vieux, dit M. Fider, nous y voilà donc. Il n'y a plus à s'en dédire. Nous sommes pris au même trébuchet. Hé, hé, hé !» Fider, reprit M. Toots, recevez mes félicitations. Si vous êtes aussi heureux en Hyménée que je le suis moi-même, vous n'aurez rien à désirer. Je n'oublie pas les vieux amis, moi, comme vous voyez, je les invite à mon mariage. Fider, répondit Toots avec gravité, plusieurs circonstances m'ont empêché de vous faire part de mon mariage. Premièrement, je vous avais parlé, comme un imbécile, de mes projets sur Miss Dombey. Je craignis, en vous invitant à mon mariage, de vous donner à croire que c'était elle que j'épousais. Il aurait fallu des explications qui, je vous le jure sur ma parole d'honneur, dans un moment critique comme celui-là, m'aurait complètement bouleversé. Secondement, notre mariage a eu lieu tout à fait en famille. Il n'y avait là qu'un ami de ma femme et le mien, qui est capitaine dans... je ne sais pas tout juste dans quoi, mais ça ne fait rien. J'espère, Fider, qu'en vous envoyant, avant de faire mon voyage à l'étranger avec Madame Toots, une lettre qui vous annonçait mon mariage, j'ai rempli les devoirs de l'amitié. Toots, mon garçon, dit M. Fider en lui donnant force poignée de main, ce que j'en disais, c'était pour plaisanter. Maintenant, Fider, dit M. Toots, je serais bien aise de savoir ce que vous pensez de mon union.
Superbe, répondit Fider.
Vous trouvez que c'est superbe, n'est-ce pas, Fider? Dit M. Toots d'un ton solennel. Eh bien, jugez comme ce mariage doit être superbe pour moi personnellement, car vous ne pouvez pas vous figurer combien cette femme est extraordinaire. M. Fider ne dit pas non, mais M. Toots, secouant énergiquement la tête, insista pour bien faire comprendre qu'il était impossible de se figurer la chose en réalité. « Vous savez, dit M. Toots, ce que je voulais dans une femme, c'était, en un mot, du bon sens. De l'argent, Fider, j'en avais, mais du bon sens, ça n'était pas mon fort. »«
Oh, pardon, pardon, vous en aviez, Toots, dit tout doucement Fider. »
Mais Toots repartit. « Non, Fider, je n'en avais pas. » « Pourquoi le cacherais-je? Je n'en avais pas. » « Je savais qu'il y en avait là à revendre, dit M. Toots, en tendant la main du côté de sa femme. « Je n'avais pas de parents à compromettre ou à blesser sous le rapport de la condition sociale, car je n'avais pas de parents du tout. Le fait est que je n'avais personne qui me touchât de près, je n'avais que mon tuteur, et je vous dirais, Fider, que je l'ai toujours considéré comme un pirate, comme un corsaire. Il n'était donc pas vraisemblable, comme bien vous pensez, que j'irai lui demander son avis.
Certainement non, dit M. Fider. En conséquence, j'ai agi à ma guise. ce fut un beau jour pour moi, Fidère, que celui où je pris ce parti. Il n'y a que moi qui puisse savoir tout ce qu'il y a de capacité dans cette femme-là. Si jamais les droits des femmes et etc., etc., ont besoin d'un bon défenseur, on peut compter sur sa puissante intelligence, je vous le promets. Suzanne, ma chère, dit tout à coup M. Toots, en passant la tête entre les deux rideaux de la fenêtre, je vous en prie, ne vous animez pas.
Non, mon ami, dit Mme Toots, je cause un peu seulement.
Mais, mon ange, dit M. Toots, je vous en prie, ne vous animez pas. Vous savez qu'il faut vous ménager. Ainsi, ne vous animez pas, ma chère Suzanne. Elle s'échauffe facilement, si vous saviez, dit M. Toots, en prenant Mme Blimber à part, et une fois lancée, elle oublie les prescriptions du médecin. Mme Blimber insistait auprès de Mme Toots sur la nécessité de prendre des précautions pour sa santé lorsque M. Fidère, bachelier ès-lettres, lui offrit le bras et descendit avec elle rejoindre les voitures en bas pour aller à l'église. Le docteur Blimber donnait le bras à Mme Toots. M. Toots conduisait la belle mariée. Autour des fines lunettes voltigeaient comme deux papillons deux petites demoiselles d'honneur vêtues de robes légères. Le frère de M. Fidère, M. Alfred Fidère, licencié ès-lettres, avait pris les devants pour être prêt à remplir ses fonctions. La cérémonie se passa admirablement bien. Cornélia, avec ses petits cheveux crépus, y alla de bon cœur, comme aurait pu dire Cocardi. Et le docteur Blimber donna sa fille à cet homme, en père bien préparé à la séparation. Les deux petites demoiselles d'honneur, à robe de gaze, parurent très émues. Madame Blimber fut attendrie, mais d'une manière décente. Elle dit au révérend M. Alfred Fidère, licencié ès-lettres, en revenant à la maison, que si elle avait pu seulement voir Cicéron dans sa retraite de Tusculanum, elle n'aurait plus rien à demander. Il y eut ensuite un déjeuner qui se passa également en famille. L'entrain de M. Fidère fut si effrayant et gagna tellement Mme Toots que plusieurs fois M. Toots lui dit à travers la table « Ma chère Suzanne, ne vous animez pas !» Ce qu'il y eut de mieux, c'est que Toots crut de son devoir de faire un speech et en dépit des signes télégraphiques de Mme Toots qui voulaient l'en dissuader, il se produisit en public pour la première fois de sa vie. « Vraiment, dit M. Toots, dans une maison où tout ce que l'on a fait pour moi, de manière à me troubler quelquefois les idées, j'en ai peur, mais ça ne fait rien, et je n'en fais reproche à personne. Dans une maison où j'ai toujours été traité comme un membre de la famille du docteur Blimber, où j'ai eu pendant un temps considérable un pupitre à part pour moi tout seul, je ne peux laisser mon ami Fidère se marier, souffla Mme Toots. Il ne sera pas hors de saison et sans intérêt, continua M. Toots avec une figure radieuse, de faire observer que ma femme, ici présente, est une femme tout à fait remarquable, et s'en tirerait beaucoup mieux que moi. Je ne puis, disais-je, laisser mon ami Fidère se marier, surtout à Miss Blimber, souffla de rechef Mme Toots. À Mme Fidère, mon amour, dit tout bas M. Toots, sur le ton d'une conversation particulière, « Eux que Dieu a unis, comme dit l'Évangile, qu'aucun homme, vous savez ce que je veux dire. Je ne puis donc laisser mon ami Fidère se marier, surtout avec Madame Fidère, sans proposer leur santé. » Et puis, ajouta M. Toots, en fixant ses yeux sur sa femme, pour s'inspirer dans son poétique essor, « Puisse la torche de l'hyménée devenir un phare de bonheur. Puisse les fleurs dont nous avons en ce jour jonché le sol sous leurs pas, bannir pour toujours la tristesse. » Le docteur Blimber, qui adorait les métaphores, fut charmé de celle-ci. « Bravo, Toots, dit-il, bravo, c'est fort bien dit, vraiment. » Et il applaudit en même temps d'un signe de tête. M. Fidère répondit par un discours comique, saupoudré de sentiments. M. Alfred Fidère, licencié ès-lettres, félicita beaucoup le docteur et Mme Blimber. M. Fidère, bachelier ès-lettres, ne fit pas moins de compliments aux petites demoiselles d'honneur en robe de gaze. Puis le docteur Blimber prononça d'une voix sonore quelques pensées dans le genre pastoral. Il parla du toit de roseau sous lequel Mme Blimber et lui avaient l'intention d'habiter et de l'abeille qui viendrait bourdonner autour de leur chaumière. Quelques moments après, comme les yeux du docteur commençaient à clignoter, entre autres déclarations saugrenues, disait qu'il n'était pas pressé et demandait à Madame Toots si elle ne chantait pas, la discrète Madame Blimber leva la séance et conduisit Cornelia, aussi calme qu'à l'ordinaire, dans la chaise de poste qui l'emporta avec l'homme de son cœur. Monsieur et Madame Toots se retirèrent à l'hôtel de Bedford, où Madame Toots avait habité autrefois sous le nom de Suzanne Nipper. Ils y trouvèrent une lettre qui prit à Monsieur Toots un temps si considérable à lire que Madame Toots en fut effrayée. « Ma chère Suzanne, dit Monsieur Toots, la peur est encore plus dangereuse que l'animation. Je vous en supplie, soyez calme. »« De qui est cette lettre ? Demanda Madame Toots. « Elle est du capitaine Gills, mon amour, dit Monsieur Toots. « Ne vous animez pas. Walter et Miss Dombey sont attendus à Londres d'un moment à l'autre. » « Monsieur, dit Madame Toots, en se levant tout à coup de dessus le canapé et fort pâle, ne me trompez pas, c'est inutile. Ils sont déjà arrivés, je le lis sur votre visage. »« Quelle femme étonnante !» s'écria Monsieur Toots, au comble de l'admiration. « Oui, vous avez raison, mon amour, ils sont arrivés. Miss Dombey a vu son père, et ils sont réconciliés. »« Réconciliés !» s'écria Madame Toots en frappant des mains. « Ma chère, dit Monsieur Toots, je vous en prie, ne vous animez pas. Rappelez-vous l'ordonnance du médecin. Le capitaine Gills me dit, c'est-à-dire, il ne me le dit pas, mais d'après ce que je peux deviner, il me donne à entendre que Miss Dombey a emmené son père de la vieille maison dans celle qu'elle habite avec Walter. Monsieur Dombey est fort malade. On croit qu'il en mourra, et Miss Dombey ne le quitte ni jour ni nuit. » Madame Toots se mit à sangloter. « Ma chère Suzanne, dit Monsieur Toots, je vous en prie, rappelez-vous les prescriptions du médecin, si vous le pouvez. Si cela vous est impossible, ça ne fait rien, mais essayez toujours. » Sa femme, reprenant tout à coup ses anciennes façons, se mit à le supplier avec tant d'instance de la conduire auprès de sa petite chérie, de sa bonne maîtresse, de son cher trésor, que Monsieur Toots, dont la sympathie et l'admiration n'avaient pas de bornes, y consentit du plus profond de son cœur. Il fut convenu qu'ils partiraient immédiatement pour porter eux-mêmes la réponse au capitaine. Ce jour-là, le capitaine, chez lequel se rendaient Monsieur et Madame Toots, se trouvait, par un enchaînement mystérieux de circonstances fortuites, emporté dans le cortège fleuri de l'Hyménée. Il n'y jouait pas pourtant le premier rôle, il n'était qu'au second plan, et voici comme. Le capitaine, après être allé voir Florence et son petit enfant, et s'en être donné à cœur joie, après avoir longuement causé avec Walter, sortit pour faire un tour. Il avait besoin de méditer seul sur les vicissitudes des choses humaines et de secouer violemment son chapeau de toile cirée à propos de la chute de M. Dombey, pour lequel ses sentiments de générosité et de naïve simplicité se réveillaient dans son cœur. Le capitaine aurait été atterré par la nouvelle du désastre de l'infortuné M. Dombey, si le souvenir du petit enfant de Florence n'avait pas fait contrepoids à sa douleur. Mais ce souvenir l'égayait si bien que, dans la rue, il lui arriva, en pensant au petit bonhomme, d'éclater de rire tout seul et, dans les soudains transports de sa joie, de lancer son chapeau de toile ciré en l'air et de le rattraper au grand étonnement des passants qui le regardaient ébahis. Les rapides alternatives de gaieté et de tristesse auquel le capitaine était exposé par ce double sujet de peine et de joie, mettait son esprit à la torture. Il sentit qu'il avait besoin de faire une longue promenade pour reprendre son sang-froid. Et comme en pareil cas, le milieu dans lequel on se trouve a beaucoup d'influence sur le moral, il choisit pour le théâtre de sa promenade le voisinage de son ancienne demeure. Il marcha longtemps parmi les mâts, les avirons, les fabricants de poulies, les marchands de biscuits de mer, les déchargeurs de houille, les chaudières à goudron, les matelots, les canots, les docks, les ponts-levis, et traversa une foule d'autres objets également propres à calmer les nerfs. La vue des quartiers paisibles comme cela, et surtout comme la région de Limehouse Knoll et des environs, contribua tellement à remettre le capitaine dans son assiette qu'il recouvra toute sa tranquillité chemin faisant, et qu'il se régalait en lui-même de la balade de la belle Susan, quand, tout à coup, au détour d'une rue, il fut pétrifié de voir une procession s'avancer triomphalement de son côté. Il en perdit momentanément la parole. Cette singulière manifestation était conduite par la terrible Madame Maxtinger. Elle avait toujours le même air déterminé et portait soigneusement attachée à sa virile poitrine une montre énorme avec toutes les breloques, que le capitaine reconnut d'un seul coup d'œil comme la propriété de Bunce Bay. Elle donnait le bras ni plus ni moins qu'au perspicace commandant de la prudente Clara. Celui-ci avait l'air triste et morne d'un prisonnier, né natif d'un pays étranger et soumis sans résistance à la volonté de son vainqueur. C'était elle qui était son vainqueur. Derrière eux suivait le joyeux groupe des jeunes Maxtinger, puis deux dames d'un aspect fier et terrible, menant entre elles deux un petit monsieur avec un chapeau de haute forme, s'avançaient non moins triomphantes. À la queue venait le mousse de Bunsby qui portait les parapluies. Toute la procession marchait au pas, en bon ordre, et, à défaut de la fière contenance des dames, la gaieté même de tout le reste de la procession aurait suffi pour faire voir qu'il s'agissait d'un sacrifice dont Bunsby était la victime. Le premier mouvement du capitaine fut de s'enfuir. Ce mouvement avait dû être aussi d'abord celui de Bunsby. Mais ses efforts étaient restés vains, comme l'événement le prouva. Un cri de reconnaissance qui partit du centre de la procession arrêta le capitaine. C'était Alexandre Maxtinger qui courait à lui, les bras ouverts. « Eh bien, capitaine Cuttle, dit Madame Maxtinger, voilà ce qui s'appelle une rencontre. Je ne vous en veux plus maintenant, capitaine Cuttle. Vous n'avez plus à craindre de reproches de ma part. J'espère me présenter à l'hôtel avec des sentiments meilleurs. » Ici, Madame Maxtinger s'interrompit, se redressa, poussa un gros soupir qui souleva sa poitrine et dit, en montrant la victime, « Je vous présente mon mari, capitaine Cuttle. » Le malheureux Bunsby ne regardait ni à droite ni à gauche, ni sa femme ni son ami. Il regardait tout droit devant lui sans rien voir. Le capitaine avança sa main, Bunsby avança la sienne, mais en réponse au salut du capitaine, il ne souffla pas mot. « Capitaine Cuttle, dit Madame Maxtinger, si vous voulez oublier nos rancunes et voir votre ami pendant qu'il est encore célibataire, vous n'avez pas de temps à perdre, et nous serons flattés que vous vouliez bien nous accompagner à l'église. » « Voici une dame, dit Madame Maxtinger en se retournant vers la plus intrépide des deux, qui est Madame d'honneur, et qui sera fière de se mettre sous votre protection. » Le petit monsieur à grand chapeau, qui semblait être le mari de l'autre dame, et qui, évidemment, n'était pas fâché de voir simplifier son rôle, fit place au capitaine et lui passa la dame. La dame aussitôt s'en saisit, et faisant remarquer qu'en effet il n'y avait pas de temps à perdre, elle donna à haute voix le commandement « En avant, marche !» La terreur que le capitaine éprouvait pour son ami, se mêlant d'abord à la terreur qu'il ressentait pour lui-même, le fit suer à grosses gouttes. Il se demandait avec effroi si lui, Cuttle, n'allait pas se voir aussi marié de force. Mais peu à peu, il se rappela les formalités d'usage en pareille circonstance et se souvint qu'il fallait répondre « oui ». Il s'estima dès lors personnellement en sûreté, bien résolu, dans le cas où on lui adresserait la moindre question, de répondre à haute et intelligible voix « non ». Cette préoccupation ne laissa pas cependant que de le rendre moins sensible au mouvement de la procession dont il faisait partie, maintenant, et à la conversation de sa belle compagne. Quand il fut moins agité, cette dame lui apprit qu'elle était la veuve d'un monsieur Bokoum, ancien employé à la douane. Elle était, ajouta-t-elle, l'amie intime de Madame Maxtinger, qu'elle considérait comme le modèle de son sexe. Elle avait souvent entendu parler du capitaine, et elle espérait qu'il se repentait maintenant de son ancienne conduite. Enfin, elle avait la confiance que M. Bunsby sentait toute l'étendue de son bonheur. « Malheureusement, dit-elle, les hommes ne sentent bien ce bonheur-là que lorsqu'ils l'ont perdu, etc., etc. » Et elle discourut longuement là-dessus. Pendant tout ce temps-là, le capitaine ne pouvait s'empêcher de remarquer que Mme Bokoum avait constamment les yeux fixés sur le marié, et que toutes les fois qu'on approchait d'un passage ou du coin d'une rue étroite, de nature à favoriser une fugue, elle était sur le qui-vive dans le cas où il tenterait de s'échapper. L'autre dame aussi, comme son mari, le petit monsieur au grand chapeau, semblait exécuter une consigne en faisant bonne garde. Le pauvre homme était bien surveillé, et les yeux vigilants de Madame Maxtinger anéantissaient par avance toute velléité de se soustraire à son bonheur. La populace qui voyait bien ce manège ne ménageait pas ses cris et ses quolibets, mais la terrible Maxtinger était indifférente à tout cela. Quant au pauvre Bunsby, il ne paraissait même pas avoir la force de s'en apercevoir. Le capitaine essaya plusieurs fois d'accoster le philosophe et de correspondre avec lui par des monosyllabes ou par des signaux. Mais il échoua toujours, d'abord parce qu'il y avait là quelqu'un qui avait l'œil au guet, et ensuite parce que les yeux de Bunsby, qui n'étaient pas faits comme un autre, ne permettaient pas que son attention fût réveillée par le moindre signe extérieur. C'est ainsi qu'on arriva à la chapelle. C'était un édifice propre et fraîchement badigeonné, récemment ouvert sous les auspices du révérend Melchisedec Howler, qui avait bien voulu, sur d'instantes prières, accorder au monde encore 2 ans d'existence, mais après les avoir dûment informés qu'après ces 2 années, il lui faudrait absolument partir. Pendant les improvisations du révérend Melchisedec, le capitaine trouva une occasion favorable pour transmettre de sa grosse voix dans l'oreille du marié ces mots.
« Comment va, mon garçon, comment va ?»
À quoi Bunsby, sans faire attention à la présence du révérend Melchisedec, oublie qu'une situation aussi critique pouvait seule justifier, répondit
« Diablement mal !»«
Jeannot Bunsby, dit tout bas le capitaine, ce que vous faites là, le faites-vous en toute liberté ?»«
Non, répondit Bunsby. »
« Eh bien alors, pourquoi le faites-vous » demanda le capitaine comme de raison. Bunsby, qui avait l'œil toujours fixé à l'autre bout du globe, ne répondit rien.
« Pourquoi ne pas prendre le large ?» fit le capitaine.
« Hein ?» dit tout bas Bunsby, avec une lueur d'espoir.
« Prenez le large !» dit le capitaine.
« À quoi bon ?» répondit le malheureux philosophe. « Elle me capturerait encore. »«
Essayez !» répliqua le capitaine. « Courage ! Allons ! C'est le moment ! Prenez le large, Jeannot Bunsby !»
Jeannot Bunsby, cependant, au lieu de profiter du conseil, dit tout bas d'un ton désolé,
« Ça a commencé le jour de votre mal. Ah, pourquoi l'ai-je ramené au port ce soir-là » ?»«
Mon garçon, dit le capitaine d'une voix émue, je croyais que c'était vous qui vous étiez rendu maître d'elle, et non pas elle de vous. Un homme de bon conseil comme vous. »
Monsieur Bunsby se contenta de pousser un soupir étouffé.
« Allons, dit le capitaine en lui donnant un coup de coude.
Le moment est venu, prenez le large.
Je couvrirai votre retraite.
Le temps fuit, Bunsby. C'est pour votre liberté. Voulez-vous ?
Une fois. » Bunsby ne bougeait pas.
« Bunsby, répéta le capitaine, 2 fois, voulez-vous ? »
Bunsby ne le voulut pas davantage.
« Bunsby, dit le capitaine d'un ton suppliant, c'est pour votre liberté. 3 fois, voulez-vous ?
C'est maintenant ou jamais. » Bunsby ne s'y décida ni alors ni plus tard, car peu d'instants après, Maxtinger l'avait épousé. Une des circonstances les plus effrayantes de la cérémonie, aux yeux du capitaine, fut l'intérêt profond que Juliana Maxtinger parut y prendre et l'ardeur avec laquelle toutes les facultés de cet enfant, qui donnait les plus grandes espérances, tant elle ressemblait déjà à sa digne mère, était concentrée fatalement sur l'ensemble de la cérémonie. Le capitaine vit dans cette ardeur de son jeune âge une foule de pièges futurs qui se dressaient à n'en plus finir contre le sexe masculin. Une suite d'années d'oppression, de contraintes à laquelle la gent marinière était prédestinée. Juliana l'occupait plus que la roideur inflexible de Madame Bokoum et de l'autre dame, que la joie du petit monsieur à grand chapeau et même que la terrible fermeté de Madame Maxtinger. Les petits Maxtinger comprenaient fort peu ce qui se passait et ne s'en souciaient guère. Tout le temps de la cérémonie, ils n'étaient occupés qu'à piétiner sur leurs brodequins respectifs. Mais le contraste que faisaient ces coquins d'enfants avec Juliana ne servait qu'à faire ressortir ses qualités précoces. Encore 1 an ou 2, pensait le capitaine, et habiter dans la même maison que cette jeune fille serait l'abomination de la désolation. La cérémonie se termina par un assaut général de la jeune famille contre M. Bunsby. Ils l'appelèrent du tendre nom de père et lui demandèrent chacun 1 sou. Ses élans de tendresse passés, la procession allait se remettre en marche quand elle fut arrêtée quelque temps par un éclat inattendu causé par Alexandre Maxtinger. Ce cher enfant, mêlant apparemment dans son esprit l'église avec les caveaux mortuaires dans lesquels il voyait continuellement entrer du monde, ce qui n'avait aucun rapport avec la cérémonie, ce cher enfant ne pouvait s'empêcher de croire qu'on allait enterrer bel et bien sa mère et qu'elle était à jamais perdue pour lui. Tourmenté par cette idée, il poussa un cri étourdissant,
sa figure en devint noire. Quelque touchant que fussent ces témoignages de piété filiale, il n'était pas dans le caractère de cette incomparable femme de s'en émouvoir jusqu'à laisser dégénérer sa sensibilité en faiblesse. Aussi, après avoir essayé en vain de le convaincre par des bourrades, des coups de poing, des cris et autres avertissements semblables, elle l'entraîna dehors et essaya d'une autre méthode. Cette méthode parut aux invités consister tout simplement en une bonne volée de coups retentissants qui faisait l'effet des applaudissements sonores de la claque au théâtre. Après quoi, ils virent Alexandre Maxtinger, le derrière sur les pavés de la cour, la figure pourpre et poussant des cris horribles. La procession put alors se reformer et se rendre à Brick Place où le festin était prêt. Ce ne fut pas toutefois sans que Bunsby eut reçu des curieux maintes félicitations joyeuses sur son bonheur présent. Le capitaine les accompagna jusqu'à la porte de la maison. Mais les petites manières gracieuses de Madame Bokum l'inquiétaient fort. Madame Bokum, déchargée de sa tâche de surveillance, car les dames se relâchèrent sensiblement de leur vigilance quand le mariage fut conclu, avait maintenant tout le temps de témoigner au capitaine plus d'intérêt pour sa personne. Il vous planta donc tout ça là avec le captif, prétextant doucement un rendez-vous et promettant de revenir tout à l'heure. Ce qui causait surtout son malaise, c'était ses remords d'avoir été la première cause de la capture de Bunsby, quoiqu'il n'y eût pas de sa part mauvaise intention. Et puis il avait une si grande confiance dans l'habileté de ce philosophe. Retourné près du vieux Sol Gills, chez le petit aspirant de marine, sans aller auparavant demander des nouvelles de M. Dombey, était une chose que le capitaine ne pouvait pas faire. La maison qu'il habitait était cependant hors de Londres et en plaine, mais il monta en route dans une charrette quand il se sentit fatigué et fit gaiement la traversée. Les jalousies étaient baissées et la maison était si tranquille que le capitaine eut presque peur de frapper. Il écouta à la porte et, ayant entendu parler à voix basse tout près de là, il frappa doucement et fut reçu par M. Toots. M. Toots et sa femme venaient d'arriver après avoir passé chez le petit aspirant de marine pour voir le capitaine et demander l'adresse de M. Dombey. Madame Toots avait déjà eu le temps de prendre le petit enfant dans ses bras et, assise sur les marches, elle le dodinait et le caressait. Florence se penchait vers elle et personne n'aurait pu dire qui Madame Toots caressait le plus, ou de la mère ou de l'enfant, ou bien qui était la plus affectionnée de Florence ou de Madame Toots l'une pour l'autre, ou pour l'enfant, tant il y avait de caresses et de baisers en l'air de part et d'autre. « Est-ce que votre papa est bien malade, ma bonne et chère demoiselle Florence ?» demanda Suzanne. « Oui, il est bien malade, mais ma bonne Suzanne, il ne faut plus me parler comme autrefois maintenant. » « Tiens, mais qu'est-ce que cela veut dire ?» dit Florence, en regardant avec surprise ses vêtements. « Vous avez repris votre ancien costume, ma chère. Le même bonnet, la même coiffure et tout le reste. » Suzanne fondit en larmes et couvrit de baisers la petite main qu'il avait touchée avec tant de surprise. « Ma chère Miss Dombey, » dit M. Toots en s'avançant, « je vais vous expliquer cela. C'est la femme la plus extraordinaire, il n'y en a pas beaucoup comme elle. Elle avait toujours dit... Elle me l'a dit avant que nous fussions mariés, elle l'a répété jusqu'à ce jour, qu'à votre retour, elle ne se présenterait devant vous qu'avec le costume qu'elle portait lorsqu'elle était à votre service. Elle avait peur, disait-elle, que vous ne la trouvassiez étrange autrement et que vous n'allassiez l'aimer moins à cause de cela. Moi-même, je la trouve bien dans ce costume-là, continua M. Toots, je l'adore comme ça. Ma chère Miss Dombey, elle sera encore votre bonne, votre femme de chambre, tout ce qu'elle était et plus encore. Elle n'a pas changé. Mais Suzanne, mon amie, dit M. Toots, qui avait parlé avec sentiment et admiration, tout ce que je vous demanderai, c'est de vous rappeler les prescriptions du médecin et de ne pas trop vous animer. Chapitre 23. Attendrissement. Florence avait besoin d'aide. L'état de M. Dombey était des plus graves et l'assistance de Suzanne ne lui suffisait pas. La mort était au chevet de son père. Il n'était plus déjà que l'ombre de lui-même, et l'âme brisée, le corps affaibli, depuis qu'il avait laissé tomber sa tête sur le lit que sa fille avait préparé pour lui, il ne l'avait plus relevé. Elle ne le quittait pas. Ordinairement, il la reconnaissait, bien que, dans le trouble de ses idées, il confondît le temps et les circonstances. Ainsi, quelquefois, il lui parlait comme s'il venait de perdre son petit Paul. Il lui disait que s'il ne lui avait pas parlé des soins qu'elle donnait à l'enfant, il s'en était pourtant aperçu. Puis il se cachait le visage pour pleurer et sortait du lit sa main défaillante. Quelquefois, il demandait à sa fille « Où est Florence ?»« Je suis là, papa, je suis près de vous. »« Je ne la reconnais pas, » s'écriait-il. « Nous avons été si longtemps séparés que je ne la reconnais pas. » Alors une muette terreur s'emparait de lui, ses yeux secs gardaient un éclat fiévreux, jusqu'au moment où Florence parvenait à le calmer et à lui faire verser des larmes que dans d'autres temps elle s'était en vain efforcée de tarir. Il redisait quelquefois, pendant des heures entières, tous ses anciens rêves, et Florence, qui l'écoutait, ne le comprenait pas toujours. Il répétait cette question de l'enfant, « Qu'est-ce que l'argent ?» Il y réfléchissait longuement, il cherchait en lui-même, avec plus ou moins de suite dans ses idées, une réponse raisonnable, comme s'il n'y avait jamais pensé depuis. Souvent, il répétait le titre de sa maison de commerce, d'un air pensif et rêveur, et chaque fois, il retournait la tête sur son oreiller. Il comptait le nombre de ses enfants. 1, 2, s'arrêtait, recommençait, pour s'arrêter et recommencer toujours de la même manière. Mais ce n'était que pendant les crises les plus violentes. Dans toutes les autres phases de sa maladie, dans son état habituel, il ne parlait que de Florence. Le plus souvent, il se rappelait cette nuit dont le souvenir lui était revenu récemment. Il s'imaginait que dans un moment de remords, il courait après elle pour la chercher en haut. Puis, confondant cette nuit avec tous les jours où il avait vu tant de traces de pas, il s'étonnait du nombre de pas et les suivait à la trace en les comptant un par un. Mais tout à coup, un pas ensanglanté se mêlait aux autres, et puis il voyait des portes ouvertes. Il apercevait, se réfléchissant dans les glaces, certaines figures terribles, des âmes aux yeux hagards qui cachaient quelque chose dans leur sein. Et puis, au milieu de tous ces pas ensanglantés, il voyait celui de Florence. Florence passait devant, et cet esprit agité et inquiet la suivait en comptant toujours. Il allait toujours plus haut, comme s'il montait en haut d'une tour si élevée qu'il lui fallait des années pour en gravir les degrés. Un jour, il demanda si ce n'était pas Suzanne qui avait parlé, il y avait déjà un peu de temps. « Oui, cher papa, » répondit Florence, « seriez-vous content de la voir ?»« Très content, » dit-il. Et Suzanne s'approcha de lui, non sans trembler beaucoup. Il parut heureux, la pria de ne pas s'éloigner, l'assura qu'il lui pardonnait tout ce qu'elle lui avait dit, et ajouta qu'il fallait qu'elle restât. « Florence et moi, disait-il, ne sommes plus comme autrefois. Nous sommes bien heureux maintenant. Regardez !» Et il attirait la douce figure sur son oreiller et la gardait près de lui. Il resta ainsi bien des jours et bien des semaines. À la fin, il ne fut plus que l'ombre d'un homme. Il restait étendu sur son lit sans remuer et il parlait si bas qu'il fallait s'approcher de ses lèvres pour l'entendre. Mais il était devenu calme et du fond de sa couche où il gisait étendu, il aimait, quand la croisée était ouverte, à regarder le beau ciel bleu et la verdure des arbres. Il aimait le soir à admirer le coucher du soleil. Ses yeux s'attachaient surtout aux ombres des nuages et des feuilles. On eût dit qu'il avait de la sympathie pour les ombres. Ce n'était pas surprenant. Pour lui, la vie et le monde n'étaient rien de plus désormais. Il commença à montrer aussi de la sollicitude pour les fatigues de Florence. Souvent, il secouait sa torpeur pour lui dire tout bas « Allez, ma chérie, allez prendre l'air. Allez voir un peu votre bon mari. » Une fois que Walter était dans sa chambre, il lui fit signe de s'approcher et de se pencher vers lui. Puis, lui serrant la main, il lui dit qu'il savait qu'il pouvait être tranquille sur sa fille quand il ne serait plus. Un soir que Florence et Walter, vers le moment du coucher du soleil, se trouvaient assis dans sa chambre, comme il aimait à les voir, Florence, qui tenait son petit enfant dans ses bras, se mit à chanter à voix basse la vieille chanson qu'elle avait si souvent répétée au pauvre Paul. Il n'eut pas le courage, en cet instant, d'entendre cet air. Il lui fit signe de sa main tremblante de ne pas continuer. Mais le lendemain, il la pria de la lui chanter, et plus d'une fois ensuite, il la lui demandait le soir, et l'écoutait en détournant la tête. Une autre fois, Florence était assise devant la fenêtre, Son panier à ouvrage était entre elle et son ancienne femme de chambre, maintenant sa fidèle compagne. M. Dambert reposait. La soirée était belle, et il y avait encore 2 heures de jour avant la nuit. Ce calme et ce repos du soir faisaient rêver Florence. Elle se rappelait le jour où son père, si changé maintenant, l'avait présenté à sa charmante mère, quand un léger coup, frappé par Walter sur le dos de sa chaise, la fit tressaillir. « Ma chère, dit Walter, il y a en bas quelqu'un qui désire vous parler. » Elle crut s'apercevoir que Walter était grave, et elle lui demanda s'il était arrivé quelque chose. « Non, non, mon amour, dit-il, j'ai vu moi-même la personne et je lui ai parlé. Il n'est rien arrivé. Voulez-vous venir ?» Florence passa son bras sous le sien et, confiant son père aux soins de la brune Madame Toots, qui s'occupait de son ouvrage avec toute l'ardeur et l'activité d'une brune aux yeux noirs, elle accompagna son mari en bas. Dans la jolie salle à manger qui ouvrait sur le jardin, était assis un monsieur qui se leva pour aller au-devant d'elle quand elle parut. Mais il fit un écart involontaire dont ses jambes chancelantes étaient cause et fut heureux de trouver la table pour se retenir après. Florence se rappela alors le cousin Phoenix qu'elle n'avait pas d'abord reconnu dans l'ombre projetée par les arbres. Le cousin Phoenix lui prit la main et la félicita de son mariage. « J'aurais vraiment désiré, dit le cousin Phoenix en s'asseyant, quand Florence eut pris un siège, me présenter ici plus tôt pour vous offrir mes félicitations. Mais, de fait, il est arrivé tant d'événements malheureux à la queue loulou, comme on dit, que j'ai été dans un état diablement triste, et qu'il m'a été tout à fait impossible de voir personne. Je n'ai eu d'autre société que la mienne, et ce qui n'est pas très flatteur pour un homme qui a de l'amour-propre, c'est que, de fait, je me suis ennuyé à la mort. » Florence devina, d'après la contrainte et la gêne qu'elle remarquait dans les manières du cousin Phoenix, qui, en dépit de ses petits ridicules, était toujours celle d'un vrai gentleman, et aussi dans la contenance de Walter, elle devina que ce n'était pas là tout ce qu'il avait à dire. « Je disais à mon ami, M. Gay, si je puis avoir l'honneur de le nommer ainsi, dit le cousin Phoenix, que je suis enchanté d'apprendre que mon ami Dombey est en voie parfaite de guérison. J'ai la confiance que mon ami Dombey ne se laissera pas abattre par une simple perte d'argent. Je ne puis pas dire que j'ai jamais éprouvé par moi-même une grande perte d'argent, n'ayant jamais eu, de fait, de sommes considérables à perdre. Mais j'ai perdu tout ce que je pouvais perdre, et je ne vois pas que j'en ai éprouvé grand-peine. Je connais mon ami Dombey pour un homme diablement honorable, et ce doit être une grande consolation pour lui de savoir que c'est là l'opinion de tout le monde. Il n'y a pas jusqu'à Tommy Scruser, tout bilieux qu'il est, mon ami Gay le connaît sans doute, qui ne souffle pas un mot là contre. Florence pressentait de plus en plus qu'il allait en venir à quelque chose, et elle attendit avec anxiété. Avec tant d'anxiété même, que le cousin Phoenix se hâta de répondre comme si elle lui en avait fait la question. « De fait, mon ami Gay et moi, nous avons discuté ensemble si je ne pourrais pas vous demander une faveur. J'ai obtenu de mon ami Gay, qui m'a reçu d'une façon on ne peut plus gracieuse et bienveillante, ce dont je lui suis très reconnaissant, j'ai obtenu, dis-je, de solliciter auprès de vous cette faveur. Je pense qu'une personne aussi aimable que la fille charmante et accomplie de mon ami Dombey ne se fera pas beaucoup prier. Mais je suis heureux de savoir que j'ai déjà pour moi l'approbation et l'appui de mon ami Gay. C'est comme du temps que j'étais au Parlement, quand un homme avait à faire n'importe quoi, une motion, ce qui arrivait rarement à cette époque, où nous étions tenus serrés, car les chefs des deux camps étaient de vrais caporaux qui ne plaisantaient pas avec la consigne, et c'était diablement utile pour faire emboîter le pas aux volontaires comme moi et les empêcher de tirer leur poudre aux moineaux, comme nous avions toujours la démangeaison de le faire. Eh bien donc, du temps que j'étais au Parlement, disais-je, quand un homme avait la permission d'aller en tirailleur, on regardait toujours comme un grand point pour lui de dire qu'il avait le bonheur de croire que ses sentiments n'étaient pas sans avoir un écho dans le cœur de M. Pitt. De fait, c'était le pilote qui nous avait sauvés de la tempête, sur quoi un nombre diablement considérable d'individus applaudissait aussitôt et le mettait en veine. Ayant reçu pour mot d'ordre d'applaudir de toute leur force chaque fois qu'on prononcerait le nom de M. Pitt, devinrent si habiles à la manœuvre que ce nom suffisait pour les réveiller. mais du reste, ils étaient tellement indifférents à toutes les circonstances accessoires que Conversation Brown, un homme qui avalait ses 4 bouteilles à la buvette et que le père de mon ami Gay doit avoir connu, car mon ami Gay est trop jeune pour avoir pu le connaître lui-même, ce Conversation Brown disait que si un orateur s'était levé pour annoncer à la Chambre qu'il avait le regret de lui apprendre qu'en ce moment, dans le couloir, un honorable membre avait une attaque de nerfs, et que ce membre était M. Pitt, ce nom seul aurait été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Florence, qui ne voyait toujours rien venir, paraissait indécise. Ses regards allaient du cousin Phoenix à Walter, avec une expression de trouble croissant. « Mon amour, dit Walter, ne vous tourmentez pas, il n'y a rien. »« Absolument rien, je vous le jure, dit le cousin Phoenix, et je suis profondément affligé de vous causer un instant d'inquiétude. Je vous prie de croire qu'il n'y a rien. La faveur que j'ai à vous demander est tout simplement, mais elle semble en réalité si singulière, que je serai on ne peut plus obligé à mon ami Gay d'avoir la bonté de rompre, de fait, de rompre la glace, dit le cousin Phoenix. » Walter, sur cette invitation, et plus encore sur l'invitation qu'il lisait dans les yeux de Florence, impatiente de connaître cette énigme, finit par dire « Ma chère amie, il s'agit simplement de vous rendre à Londres avec ce gentleman que vous connaissez. » « Mon ami Gay nous accompagnera aussi, » interrompit le cousin Phoenix, « mille pardons. » « Je vous accompagnerai, » dit Walter, « c'est pour une visite quelque part. » « À qui ?» demanda Florence, en les regardant tous deux tour à tour. « S'il m'était permis de vous prier, dit le cousin Phoenix, de ne pas vous forcer de répondre à cette question, je me hasarderais à prendre la liberté de vous présenter cette requête. » « Savez-vous à qui, Walter ? Dit Florence. « Oui. Et vous pensez que je fais bien d'y aller ? Oui, parce que je suis sûr que vous penseriez comme moi. Cependant, pour certaines raisons que je comprends parfaitement, il vaut mieux que vous n'en sachiez rien d'avance. » Si papa dort encore ou qu'il n'ait pas besoin de moi, je suis à vous dans un instant, dit Florence. Et, se levant tranquillement, elle leur jeta à tous deux un regard quelque peu étonné, mais plein de confiance, et elle quitta la chambre. Quand elle reparut, toute prête à les accompagner, ils causaient tous deux gravement à la croisée. Florence se demanda avec surprise ce qui avait pu les rendre si intimes en si peu de temps. Elle ne s'étonna pas du regard plein d'orgueil et d'amour que son mari lui lança en interrompant la conversation quand elle rentra, car elle ne le voyait jamais sans rencontrer ce regard fixé sur elle. « Je vous laisse une carte pour mon ami Dombey, dit le cousin Phoenix, et j'ai la ferme confiance qu'il va recouvrer la santé et se rétablir d'heure en heure. J'espère que mon ami Dombey me fera l'honneur de me regarder comme un admirateur diablement chaud de son caractère, qui, de fait, est bien celui d'un bon négociant anglais et d'un gentleman vraiment distingué. Ma maison de campagne est dans le plus triste état de dégradation, mais si mon ami Dombey avait besoin de changer d'air et qu'il voulût prendre là ses quartiers, c'est un endroit on ne peut plus sain, ce qui n'est pas dommage, car il est diablement triste. Si mon ami Dombey se sent faible et qu'il veuille bien me permettre de lui recommander une chose qui m'a fait le plus grand bien à moi, qui ait été un assez drôle de corps quelquefois, et qui ait vécu dans la plus grande liberté, du temps où l'on vivait libre, je lui conseillerais, de fait, de battre un jaune d'œuf avec du sucre et de la muscade dans un verre de xérès, et de prendre le mélange le matin avec une rôtie. Jackson, qui tient la salle de boxe dans Bond Street, homme de qualité supérieure et que mon ami Dombey doit connaître de réputation, avait l'habitude de dire que pour donner du ton aux boxeurs, on substituait le rhum au xérès. Je recommanderais le xérès dans cette circonstance, parce que mon ami Dombey est si faible, que cela permettrait au rhum de lui monter, de fait, de lui monter à la tête, et pourrait le mettre dans un diable d'état. Le cousin Phoenix débita tout cela d'un air évidemment inquiet et agité. Puis il donna le bras à Florence en cherchant à retenir ses jambes qui s'entêtaient à aller dans le jardin. L'ayant conduite à la porte, il lui offrit la main pour l'aider à monter dans la voiture qui l'attendait. Walter y monta après lui et ils partirent tous trois. Ils firent environ 6 ou 8 milles. Quand ils entrèrent dans une suite de rues tristes et sombres à l'ouest de Londres, il faisait presque nuit. Florence, pendant ce temps, avait mis sa main dans celle de Walter, et elle regardait avec un trouble, une agitation croissante, chaque nouvelle rue dans laquelle ils entraient. Quand la voiture s'arrêta enfin devant la maison de Brook Street, où s'était célébré le malheureux mariage de son père, « Walter, dit Florence, où sommes-nous? Qui est-ce qui habite ici ?» Comme Walter la rassurait sans répondre à ses questions, elle regarda la façade de la maison et vit que toutes les fenêtres en étaient fermées comme si elles n'étaient pas habitées. Pendant ce temps, le cousin Phoenix était descendu et lui offrait sa main. « Ne venez-vous pas, Walter ? Non, je reste ici. N'ayez pas peur, ma chère amie, il n'y a rien à craindre. J'en suis sûr, Walter, quand vous êtes si près de moi, mais... » La porte s'ouvrit doucement sans qu'on eût frappé, et le cousin Phoenix la fit passer de l'air doux d'une soirée d'été dans la sombre et triste demeure. Elle était plus sombre et plus triste que jamais, et l'on eût dit que, fermée depuis le jour du mariage, elle avait fait provision de tristesse et d'obscurité. Florence monta en tremblant l'escalier obscur et s'arrêta avec son introducteur à la porte du salon. Il l'ouvrit sans parler et la pria d'un signe d'avancer dans la chambre du fond pendant qu'il resterait là. Florence, après avoir hésité un instant, s'y décida. À la croisée, devant une table, était assise une dame qui venait, selon toute apparence, d'écrire ou de dessiner. Sa tête était tournée vers la rue et appuyée sur sa main. Florence s'avança en hésitant et resta tout à coup immobile, comme si elle eût perdu l'usage de ses jambes. La dame tourna la tête. « Grand Dieu, dit-elle, qui est là ?»« Non, non, maman, s'écria Florence, qui recula en la voyant se lever, et étendit ses mains pour l'arrêter. Elles se regardèrent toutes deux. La passion et l'orgueil avaient flétri le visage d'Edith, mais c'était bien elle encore, toujours belle et superbe. La terreur, l'effroi étaient peints sur le visage de Florence, mais on y lisait la pitié, la douleur et le souvenir d'une tendre reconnaissance. Leurs deux visages exprimaient d'une manière saisissante l'étonnement et la crainte. Toutes deux étaient froides et silencieuses et se regardaient comme séparées par le sombre gouffre de l'irrévocable passé. Florence fut la première à s'attendrir. Son cœur déborda, elle fondit en larmes et s'écria « Oh, maman, maman, pourquoi faut-il nous revoir ainsi, vous qui avez été si bonne pour moi quand personne ne m'aimait ? Devions-nous donc nous retrouver ainsi ?» Edith restait devant elle, muette et sans mouvement, les yeux fixés sur elle. « Je viens de quitter mon père sur son lit de douleur, » dit Florence. « C'est à peine si j'ose y songer. Nous ne nous séparerons jamais maintenant. Si vous voulez que je lui demande votre pardon, je le ferai, maman. Je suis presque sûre qu'il me l'accordera maintenant si je le lui demande. Puisse le ciel vous l'accorder aussi et vous consoler. » Elle ne répondit pas un mot. « Walter est en bas, » dit timidement Florence, « car nous sommes mariés et nous avons un petit garçon. C'est lui qui m'a amené ici. Je lui dirai que vous vous repentez. Que vous êtes changé, » dit Florence en la regardant tristement. « Elle parlera avec moi à papa, j'en suis sûr. Y a-t-il autre chose que je puisse faire ?» Edith rompit le silence sans faire le moindre mouvement et dit lentement « Pourrez-vous oublier, Florence, la tâche faite à votre nom, à celui de votre mari, à celui de votre enfant ?»« Si cela se peut, maman, mais c'est déjà fait. Walter et moi, nous avons tout pardonné. Si ce pardon est pour vous une consolation, vous pouvez me croire, tout est oublié. Vous ne parlez pas, et la voix de Florence tremblait, vous ne parlez pas de papa. Mais je suis sûre que vous voudriez aussi avoir son pardon. Oui, n'est-ce pas ? » Elle ne répondit rien. « Je le lui demanderai, dit Florence. Je vous le rapporterai si vous le voulez, et nous pourrons alors nous quitter d'une manière plus conforme à l'amitié que nous avions l'une pour l'autre. Si j'ai reculé tout à l'heure en vous voyant, maman, dit Florence, avec douceur et en se rapprochant d'elle, ce n'est pas parce que je vous crains ou parce que j'ai eu peur d'être mal reçue par vous. Je ne veux que remplir mes devoirs envers mon père. Je lui suis cher, et il m'est bien cher aussi. Mais jamais je n'oublierai que vous avez été bien bonne pour moi. Oh, que le ciel vous pardonne, maman, dit Florence, en se jetant dans ses bras, que le ciel vous pardonne votre faute.
et qu'il me pardonne si je fais mal, de ne pouvoir m'empêcher de vous serrer dans mes bras quand je me rappelle ce que vous avez été pour moi. » Edith, comme si le sentiment lui fût revenu en se sentant touchée par Florence, tomba à genoux et serra la jeune femme dans ses bras. « Florence, s'écria-t-elle, mon bon ange, avant que ma folie me revienne, avant que mon orgueil obstiné me rende encore muette, Florence, croyez-moi, je vous le jure, je suis innocente.
Maman !
Oh, je suis bien coupable. Oui, je suis coupable de ce qui a mis entre nous un gouffre infranchissable. Coupable de ce qui me sépare pour le reste de mes jours, de la pureté, de l'innocence, de vous et du reste du monde. Je suis coupable d'un ressentiment aveugle, furieux, dont je ne peux ni ne veux, même maintenant, me repentir. Mais je ne suis pas coupable avec cet homme qui est mort, vous savez bien. Je vous le jure devant Dieu. » Et à genoux par terre, elle leva ses deux mains vers le ciel et jura. « Florence, dit-elle, ô vous la plus pure et la meilleure des créatures, vous que j'aime, vous qui auriez pu me changer et qui pendant un temps aviez réussi à le faire, telle que je suis, croyez-moi, je suis innocente de cela. Et laissez-moi une dernière fois serrer sur mon pauvre cœur cette tête chérie. » Florence, émue, pleurait. Si Edith avait été ainsi autrefois, elle aurait été plus heureuse maintenant. « Il n'y a rien au monde, dit-elle, qui eût pu m'arracher ce secret. Ni amour, ni haine, ni promesse, ni menace. J'avais dit que je mourrais sans rien révéler. Je l'aurais fait, je me l'étais promis, si je ne vous avais vu, Florence. »
J'ai la confiance, dit le cousin Phoenix en trottinant vers la porte et parlant, moitié en dedans, moitié en dehors, « j'ai la confiance que ma charmante et distinguée parente me pardonnera d'avoir employé un petit stratagème pour ménager cette rencontre. Je ne pourrais pas dire que j'ai d'abord douté positivement que ma charmante et distinguée parente se fût compromise d'une façon tout à fait déplorable avec ce monsieur décédé qui avait des dents blanches, parce que, de fait, on voit dans ce monde, monde bien curieux par ses arrangements diablement bizarres, et qui est décidément la chose la plus inintelligible pour un homme d'expérience. On voit, dis-je, dans ce monde, les plus singuliers rapprochements de ce genre. Mais comme je le disais à mon ami Dombey, je ne pouvais croire à la faute de ma charmante et distinguée parente avant d'avoir eu des preuves positives. Et quand feu ce monsieur a été, de fait, broyé d'une si horrible manière, je pensais que la position de ma charmante et distinguée parente devait être fort pénible. Et comme je pensais aussi que notre famille avait bien quelques reproches à se faire de ne pas s'être occupée d'elle davantage, et que nous étions des gens bien insouciants, et que ma tante, qui avait été une diablement belle personne, n'avait pas été peut-être la meilleure des mères, je pris la liberté d'aller chercher sa fille en France et de lui offrir la petite protection d'un homme assez mal accommodé. Dans cette circonstance, ma charmante et distinguée parente me fit l'honneur de me dire qu'elle pensait que j'étais à ma manière un diablement bon enfant. Et de fait, elle consentit à se mettre sous ma protection. Ce que, de fait, je regardais comme fort bien de la part de ma charmante et distinguée parente, parce que je suis diablement cassé, et que j'ai éprouvé un grand bien de ses soins. Edith, près de Florence, assise sur un sofa, fit un geste de la main comme pour le prier de n'en pas dire davantage. « Ma charmante et distinguée parente, dit le cousin Phoenix en se dandinant toujours à la porte, me pardonnera si pour sa satisfaction et pour la mienne, aussi bien que pour celle de mon ami Dombey, dont la fille charmante et distinguée est l'objet de notre plus grande admiration, elle me pardonnera, dis-je, si je continue le fil de mes observations. » Elle se rappellera d'abord que ni elle ni moi, nous n'avons jamais fait la moindre allusion à sa fuite. Je m'étais toujours dit qu'il y avait là-dessous un mystère qu'elle pourrait expliquer si elle le voulait. Mais ma charmante et distinguée cousine, étant une femme diablement décidée, je savais qu'il ne fallait pas, de fait, plaisanter avec elle, et je ne suis jamais entré dans aucune discussion. Cependant, ayant remarqué dernièrement que son point sensible paraissait être une violente tendresse pour la fille de mon ami Dombey, je pensais que si je pouvais amener une rencontre entre les deux personnes sans qu'elles y fussent préparées, il pourrait en résulter les meilleurs effets. Comme nous habitons Londres incognito, avant de nous rendre dans le sud de l'Italie, où nous résiderons, de fait, jusqu'au moment où nous irons à notre dernière demeure, réflexion diablement triste pour un homme, je me mis en quête pour découvrir la demeure de mon ami Gay, jeune homme d'un naturel plein d'une rare franchise, et qui, sans aucun doute, est connu de ma charmante et accomplie parente, et j'eus le bonheur d'amener son aimable femme dans cette demeure. « Et maintenant, dit le cousin Phoenix, avec une émotion vraie et naturelle qui perçait à travers la légèreté de ses manières et de ses paroles décousues, je conjure ma parente de ne pas s'arrêter à moitié chemin, d'expliquer autant que possible jusqu'où elle a été coupable. Je l'en conjure, non pas pour l'honneur de notre nom, ni pour sa propre réputation, ni pour aucune de ces considérations que les circonstances malheureuses l'ont amenée à regarder comme trompeuse, et, de fait, je dirais presque comme d'amère raillerie, mais je l'en conjure, parce que ce n'était pas bien, c'était mal. » Après cette péroraison, les jambes du cousin Phoenix consentirent à l'emmener. Il laissa seul Edith et Florence et ferma la porte. Edith resta quelques instants silencieuse, assise tout près de Florence, puis elle tira de son sein une lettre cachetée. Je me suis longtemps demandé si je devais écrire cette lettre pour la garder sur moi en cas de mort subite ou accidentelle. Depuis, j'ai hésité à la détruire. Prenez-la, Florence, elle contient la vérité. Est-ce pour papa ? Demanda Florence. Elle est pour qui vous voudrez, répondit-elle. C'est à vous que je la donne. C'est vous qui la recevez, il ne l'aurait jamais eue autrement. Elles gardèrent encore le silence, l'obscurité croissait. Maman, dit Florence, il a perdu toute sa fortune. Il a manqué de mourir, et il a beaucoup de peine à se remettre. Ne lui dirai-je pas quelque chose de votre père ? Ne m'avez-vous pas dit, demanda Edith, que vous lui étiez bien cher ? Oui, dit Florence d'une voix tremblante. Dites-lui que je regrette que lui et moi, nous nous soyons rencontrés. Rien de plus, dit Florence, après avoir attendu un moment. Dites-lui, s'il vous le demande, que je ne me repens pas de ce que j'ai fait. Non, pas encore. Car si j'avais à recommencer demain, je le ferais de même. Mais s'il est changé maintenant... » Elle s'arrêta. Florence lui serrait silencieusement la main, et cette étreinte l'arrêta. « Mais puisqu'il est changé, reprit-elle, il sait lui-même maintenant qu'il eût mieux valu que cela ne fût jamais arrivé. « Pourrais-je lui dire que vous le plaignez de toutes les peines qu'il a endurées ?» dit Florence. « Non, répliqua-t-elle. Si elles ont pu lui apprendre à aimer sa fille. Il ne s'en plaindra pas lui-même un jour si elles ont pu lui donner cette leçon, Florence. Vous lui souhaitez du bien et vous voudriez qu'il fût heureux. Oh, j'en suis sûr, dit Florence. Laissez-moi le lui dire si l'occasion s'en présente quelque jour. Edith arrêta sur elle ses yeux noirs et ne répondit pas avant que Florence eût renouvelé sa prière. Alors elle lui prit la main, la passa sous son bras et lui dit en regardant toujours d'un air rêveur la nuit qui avançait, « Dites-lui que si maintenant il a quelque raison de me plaindre dans mon passé, je le prie de le faire. Dites-lui que si maintenant il a quelque raison de penser à moi avec moins d'amertume, je le prie de le faire. Dites-lui que tout mort que nous sommes l'un pour l'autre, et ne devant plus nous retrouver jamais que dans l'éternité, il sait qu'un même sentiment nous rapproche maintenant, un sentiment qui n'avait jamais existé auparavant entre nous. La froideur semblait céder et des larmes roulaient dans ses yeux noirs. « J'espère, dit-elle, qu'il aura pour moi plus d'indulgence et moi pour lui. Plus il aimera sa Florence, moins il me haïra. Plus il sera fier et heureux près d'elle et de ses enfants, plus il se repentira de la part qu'il a eue dans la triste vision de notre mariage. À ce moment, je me repentirai aussi. Vous pourrez le lui dire alors, et je dirai moi-même qu'au lieu de penser exclusivement aux causes qui m'avaient fait ce que j'étais, j'aurais dû, pour son excuse, penser davantage aux causes qui l'avaient rendu ce qu'il était. Je tâcherai alors de lui pardonner sa part dans nos torts réciproques, qu'il tâche aussi de me pardonner la mienne. « Oh, maman, s'écria Florence, comme mon cœur est soulagé, que je suis heureuse de vous entendre parler comme cela. J'en trouverai moins amère cette rencontre et cette séparation. Mots étranges à mon oreille, dit Edith, et que mes lèvres ne sont pas habituées à prononcer. mais quand même j'eusse été la misérable créature que je lui ai donné lieu de supposer, je crois que j'aurais pu encore les dire en apprenant que vous vous aimez tous deux. Qu'il sache que c'est lorsqu'il vous aimera le plus qu'il trouvera dans son cœur plus d'indulgence pour moi et moi pour lui. Voilà les dernières paroles que je lui envoie. Et maintenant, adieu, ma chère enfant. » Elle la serra dans ses bras, et l'on eût dit que tout ce qu'elle avait dans le cœur d'amour et de tendresse débordait à la fois. « Ce baiser est pour votre enfant. Tout ceci pour votre bonheur. Ma chère Florence, ma fille chérie, adieu. » « Nous nous reverrons, » s'écria Florence. « Non, jamais, jamais. Quand vous m'aurez laissé dans cette sombre chambre, figurez-vous que vous m'avez laissé dans ma tombe. Souvenez-vous seulement que j'ai vécu et que je vous ai aimé. » Florence la quitta, les yeux voilés par les larmes, accompagnée jusqu'au dernier moment par ses baisers et ses caresses. Le cousin Phoenix vint au-devant d'elle à la porte et la conduisit auprès de Walter, qui l'attendait dans l'obscure salle à manger. Florence appuya sa tête sur son épaule et pleura longtemps. « Je suis diablement désolé, » dit le cousin Phoenix en portant à ses yeux sa manchette de la manière la plus naturelle et sans cacher le moins du monde son émotion, « que la fille charmante et distinguée de mon ami Dombey, l'aimable femme de mon ami Gay, ait éprouvé dans sa nature si sensible une secousse aussi violente par suite de l'entrevue qui vient d'avoir lieu. » Mais j'ai la ferme confiance que j'ai agi pour le mieux et que mon ami Dombey pourra trouver une consolation dans les révélations que l'on vient de faire. Je déplore profondément que mon ami Dombey ait, de fait, contracté cette diable d'alliance, mais je suis entièrement persuadé que tout se serait fort bien passé sans les artifices de ce damné coquin de Carker avec ses dents blanches. Quant à ma parente qui m'a fait l'honneur de m'estimer assez pour se confier à moi, je serai de fait un père pour elle. Je puis en donner l'assurance à l'aimable femme de mon ami Gay. Et quant au changement de la vie humaine, de la conduite singulière que nous menons sans cesse, tout ce que je puis dire avec mon ami Shakespeare, dont le talent est de tous les siècles, et que mon ami Gay connaît sans aucun doute, c'est que la vie est comme l'ombre d'un rêve.